de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quand les jeunes retournent au village en Afrique, on les appelle les retournés. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le retour des jeunes, diplômés ou non, dans leur village, après des années souvent de galères, de déceptions dans les villes, n'est pas un phénomène nouveau, mais il suscite toujours de l'incompréhension et soulève beaucoup de questions. Pour choisir l'agriculture, premier débouché au village, ou pas d'ailleurs, on peut choisir autre chose. Après les petits boulots dans l'informel en ville, encore faut-il accéder à la terre que les anciens préfèrent parfois céder à des étrangers. Les voisins, les voisines, pourquoi et comment vous avez quitté la ville? Comment se passe votre intégration? Comment vous souhaitez faire entendre votre voix aussi en tant que jeune au village? Appelez-nous, surtout n'attendez pas la fin de l'émission. Appelez-nous dès maintenant sur notre serveur WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Bonjour Léo Montaz.
Bonjour.
Vous êtes un jeune ethnologue à l'Université de Lille. Vous publiez « Retour au village, jeunesse et pouvoir en Côte d'Ivoire » aux éditions Cartala. Vous avez enquêté pendant des années sur ces retournés en pays bété dans la région de Gagnoa. On y reviendra. Également en ligne avec nous le sociologue Francis Akindes. Bonjour.
Bonjour.
Professeur Akindes, vous êtes sociologue à l'université de Boaké dans le centre de la Côte d'Ivoire et directeur des programmes de la chaire UNESCO de bioéthique. Alors le retour de ces jeunes n'est pas sans conséquences, ça bouleverse toujours l'ordre établi. Vous nous direz tous les deux comment se passe l'intégration de ces retournés, quelles sont aussi leurs relations avec les aînés. On donnera aussi la parole à ces retournés en Côte d'Ivoire, d'anciens jeunes urbains qui ont trouvé leur place après des années d'un parcours compliqué. Et les voisins, les voisines, donc je vous le rappelle, si vous nous écoutez au village, pas toujours facile hein, d'écouter RFI d'ailleurs au village, ou en tout cas si avec vos comptes internet hein, ou en ondes courtes, ou si vous êtes simplement de passage en ville, quel que soit le pays, racontez-nous pourquoi et comment vous avez quitté la ville, après quel parcours, que pense votre famille, votre communauté sur votre choix. Et puis surtout, très concrètement, comment vous avez accès à la terre, si vous êtes dans l'agriculture et comment vous voyez le développement économique de votre région, car forcément, vous avez un point de vue. Appelez-nous, donc je vous rappelle le numéro de téléphone 33 7 64 45 51 41. Tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage d'un voisin qui a posté sur notre compte WhatsApp, un voisin de 43 ans au Sénégal.
Bonjour aux voisins et voisines du monde. Je m'appelle Mans et je vous appelle du Sénégal, dans la région de Thiès. J'ai fait des études en économie où j'ai obtenu une maîtrise et un master. Et après quelques années de travail au niveau de l'aéroport et d'une banque, je me suis dit qu'il fallait retourner dans mon village et exploiter la ferme familiale. Armé de courage, avec mes économies, j'ai commencé à creuser un puits et à faire une parcelle de 2 hectares que j'exploite avec différents légumes et des arbres, surtout les citronniers. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que les gens pensent que étudier c'est travailler, mais moi je me dis que étudier c'est d'abord comprendre les enjeux du monde. Et cette compréhension m'a permis de savoir qu'avec l'accroissement de la population mondiale, bientôt sera une difficulté de nourrir tous ces gens-là. Et je me suis dit qu'il fallait anticiper et ne pas vraiment rester dans un bureau cloîtré comme ça. La ferme me permet de vivre dignement. Également d'aider des gens qui sont dans le besoin et également d'utiliser d'autres jeunes qui sont animés de la même volonté et peut-être qui n'ont pas la chance d'avoir été à l'école et au lieu d'aller dans les villes ou bien faire des marchands ambulants et autres. J'incite les jeunes, surtout les diplômés, à ne pas attendre tout de l'État. On a le soleil, on a l'eau en abondance. Ce qui reste, c'est le courage, la détermination. Nous ne devons pas tout attendre de l'État parce que l'État a ses limites. Et c'est à nous de prendre notre destin en main et de savoir qu'on doit contribuer à la bonne marche de notre pays. Merci à tout le monde.
Et merci à vous, Mas, pour ce témoignage. Vous continuez de nous appeler au 33 7 64 45 51 41 pour témoigner en direct de votre parcours. Donald au Bénin nous dit « Le retour au village, c'est un sujet tabou en Afrique. Ceux qui vivent en ville sont considérés comme des gens aisés, ayant une situation financière stable. Et si vous décidez de retourner au village, les gens pensent que vous avez raté votre chance, que vous êtes malheureux. Lorsque vous retournez au village avec des projets agricoles, on vous regarde d'un œil étrange. » Mariama au Niger nous dit « Au village, après la saison des pluies, il n'y a rien à faire là-bas. Donc ils sont nombreux à migrer vers les villes. » Jérémy, à Lomé, au Togo, « Quand on était sur les bancs, l'objectif premier, c'était de réussir brillamment ses études afin de décrocher un bon boulot pour ne pas finir paysan comme ses parents. Et après plusieurs vaines tentatives en ville, ce serait une grande déception de rebrousser chemin compte tenu de la précarité du secteur agricole. » Iboud Ramé Silla, lui, professeur de philo dans la région de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, et il nous dit que le retour au village s'est souvent perçu comme l'échec d'une aventure, comme le disent les autres. Le voyage, nous dit Iboud Ramé, le voyage dans la mentalité de beaucoup de jeunes Africains, c'est le signe d'une réussite sociale. Voilà pourquoi beaucoup préfèrent demeurer en ville, même dans des conditions de survie quotidienne intenable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces constats, Léo Montaz et Francis Akindes? Est-ce que vous voyez une similitude, d'ailleurs, quand le professeur de philo parle du mot, emploie le mot aventure, avec l'aventure vers l'Occident et ses promesses non tenues, Léo Montaz?
C'est la question de l'aventure, c'est marrant parce que je me rappelle d'un de mes interlocuteurs qui me disait être parti justement à l'aventure chez lui. Donc vous voyez, l'aventure, on peut aussi la retourner. Mais par-delà ça, je pense que le tout premier commentaire de Mosl était très intéressant.
Ouais, parce au Sénégal.
Que, voilà, parce qu'il montrait bien que lui, il est aussi parti à l'aventure pour entreprendre dans la terre et que donc pour lui, c'était aussi un parcours entrepreneurial comme certains pourraient le mener en ville. Donc effectivement, il y a cette contradiction qu'on retrouve sur les terrains que j'ai pu faire, qu'on retrouve entre ceux qui pensent que c'est un échec, mais aussi de plus en plus de jeunes qui, au contraire, y voient une grande opportunité.
Francis Akindes, sur cette aventure.
Oui, le témoignage qui nous est venu du Sénégal nous vient de quelqu'un qui a une conscience exceptionnelle de lui-même et de l'environnement dans lequel il vit. Parce que se donner une trajectoire entrepreneuriale comme ça, ce n'est pas souvent ce que l'on rencontre. Et par contre, on est dans des contextes africains où la figure de la réussite est d'abord urbaine, elle n'est pas rurale. Et aujourd'hui, travailler au village, travailler en milieu rural, dans les mêmes conditions que furent celle de ses ancêtres, c'est vraiment un signe d'échec. Il aurait fallu penser peut-être à moderniser l'agriculture, à donner une formation qui n'amène pas ces jeunes à vouloir travailler comme leur père ou comme leur grand-père.
Bien sûr, voilà. Et ça va être tout l'objet de nos discussions, parce que nous, on ne va pas s'arrêter seulement au regard des autres. Barry est étudiant en économie agricole à Ouagadougou, au Burkina, et nous dit « Après mes études, moi je veux retourner entreprendre au village, mais mes parents, mes frères ne comprennent pas que je veuille revenir pour entreprendre dans l'agriculture. Je ne pourrais les convaincre que lorsque je pourrais commencer à cultiver et prouver que cela fonctionne. » Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Nous accueillons dans l'émission Éric-Joël Baléga. Bonjour Éric-Joël.
Bonjour madame.
Alors on vous appelle Éric-Joël Baléga parce que vous faites partie des personnes qui figurent dans le livre de Léo Montaz sur le retour au village. Vous êtes président des jeunes du village de Maïdio dans la région de Gagnoa, la région de Gagnoa en Côte d'Ivoire, dans le centre-ouest, dans le pays Bété. Est-ce que vous aussi vous avez entendu ce genre de commentaires négatifs durant votre parcours quand vous êtes rentré il y a plusieurs années?
Oui, il faut dire que le retour au village de départ n'est pas apprécié. Chez nous, le retour au village, on a l'impression que tu as échoué la vie et donc tu retournes à la terre. Voilà. Et donc au départ, il y a des médisances autour de vous. Et puis c'est comme ça que les gens voient en mal le retour à la terre au départ.
Vous êtes un ancien jeune, Éric-Joël Baléga, n'y voyez pas de mauvaises intentions, mais vous avez 41 ans, vous êtes revenu au village en 2012, vous avez exercé plusieurs métiers entre la ville et le village dans différentes régions, taxi, transporteur, coiffeur. Vous avez vécu beaucoup de conflits aussi avec la famille à propos des terres, parce que vous êtes fils de cultivateur à la base.
Oui, après mon retour au village... demandé à mon père de m'offrir une parcelle de terre et j'ai commencé à faire du cacao. Après, il y a eu les problèmes de litige foncier entre parents. Et puis, moi-même, j'ai été dépossédé de mes terres. Et donc, aujourd'hui, je fais d'autres activités qui me permettent de vivre. La plantation a été prise et même d'ailleurs revendue à un étranger. Et donc, voilà la situation.
Qu'est-ce que vous appelez un étranger ?
Bon, quelqu'un qui est un jeune Burkinabé.
Comment vous avez été dépossédé de vos terres alors que vous avez commencé à cultiver la parcelle de votre père quand vous êtes rentré avec votre maman, je crois?
Bon, il faut dire que après la mort du vieux, il y a son frère, son petit frère qui s'est accaparé de toutes les terres et donc qui m'a arraché la terre purement et simplement puisque lui, il est l'aîné.
Votre oncle paternel, donc?
Oui, oui.
Aujourd'hui, vous n'avez plus de terre depuis combien d'années?
Ça fait environ 5 ans.
Et du coup, comment faites-vous pour survivre à Maïdio?
Mon travail de chauffeur, des fois, je vais travailler dans les d'autres. Des fois aussi, je vais aider les maçons sur les chantiers. Bon, je fais un peu de tout ce qui me passe sous la main.
Est-ce que néanmoins, vous avez le sentiment que votre vie matérielle est moins précaire au village que si vous étiez dans l'informel à Abidjan?
Oui, ça je le pense. Parce que à Abidjan, il faut dire que le train de vie est beaucoup trop élevé. Et puis, quand tu n'as pas un boulot bien rémunéré, tu ne peux pas vivre à Abidjan. Hein. Et donc au village, au moins, il y a moins de problèmes. En matière de déplacement, en matière de... Bon, le coût des denrées alimentaires est un peu moins qu'à Abidjan. Donc, je pense que le village est encore acceptable par rapport à Abidjan.
Est-ce que vous êtes propriétaire de votre maison, Éric-Joël Baléga, à Maïdio?
Oui, à Maïdio. Je suis propriétaire de la maison que j'habite. Pourquoi? C'est la maison à mon père, mon défunt père.
C'est la maison de votre père. Pourquoi vous avez voulu devenir le président des jeunes de votre village?
Bon, il faut dire qu'au départ, je n'avais pas cette aspiration à la main. C'est les parents du village qui ont estimé que, bon, étant un jeune respectueux, un jeune dévoué qui se veut responsable, c'est comme ça qu'on m'a demandé de devenir président des jeunes. C'est tout.
Alors que précisément, vous ne cultivez pas la terre.
Comment?
Pourtant, vous ne cultivez pas la terre.
Ah oui, non, je ne cultive plus la terre.
Et alors, qu'est-ce que vous faites en tant que président des jeunes? Comment vous faites entendre la voix des jeunes?
Bon, il faut dire que au niveau du village, on contribue au développement avec le chef. Quand il a des besoins, c'est moi qui l'envoie. Quand il doit se faire présenter à des réunions avec le préfet ou le sous-préfet, c'est moi qui l'envoie. Nous aussi, on participe à l'entretien et à l'embellissement du village. Voilà un peu de ce qu'on fait. Maintenant, à côté de ça, quand il y a les petites histoires entre les jeunes, bon, on préfère me confier ça. En attendant, voilà ce que je fais comme activité de jeunes. À part les activités sportives et...
Aujourd'hui, sur quels conflits principaux vous pensez qu'il faut que les jeunes se fassent entendre quand ils retournent au village?
Ah, vraiment, moi, je pense que c'est le conflit des terres, hein. Parce que nous avons des difficultés avec les aînés, avec les oncles qui s'accaparent toutes les terres et les jeunes gens qui veulent retourner chez eux pour s'installer désormais, ils ne peuvent pas, ils sont confrontés à des difficultés, ils sont laissés pour compte. Et donc voilà un peu la difficulté, voilà ce que moi je voudrais qu'on combatte ensemble.
Éric-Joël Baléga, est-ce que parfois la ville vous manque?
Comment?
Est-ce que parfois la ville vous manque?
Non, je ne regrette pas la ville. Sauf quand j'ai des fois envie d'aller faire certaines courses, sinon je ne regrette nullement pas la ville.
Merci en tout cas d'avoir été en ligne avec nous. Et bien sûr, les voisins et les voisines, si vous vous sentez concernés par ce sujet, des jeunes qui retournent au village de gré ou de force, je ne sais pas, 33-7, 64, 45, 51, 41. C'est notre compte WhatsApp. 33-7, 64, 45, 51, 41. Léo Montaz, le témoignage qu'on a entendu, il s'agit d'un retourné qui précisément ne travaille pas la terre et qui pourtant a pris la parole, s'est fait le porte-parole d'une certaine jeunesse retournée dans les villages en Côte d'Ivoire.
Oui, effectivement. Alors Eric, il a en fait finalement un parcours assez commun avec de nombreux jeunes que j'ai rencontrés, parce que c'est bien d'ailleurs pour ça qu'on parle de retour au village et non pas de retour à la terre, qui est l'expression répandue en Côte d'Ivoire. Or, la plupart en fait font bien un retour au village parce qu'ils ont très rarement accès à la terre, ou bien comme Eric, ils ont accès à la terre mais la perdent dans des conflits familiaux. C'est vrai que l'originalité du parcours d'Eric, c'est les fonctions qu'il occupe actuellement en tant que président des jeunes, alors même que pourtant il a été longtemps en conflit avec la chefferie villageoise du fait de ses problèmes de terre. Mais comme il a lui-même dit, il est même aujourd'hui devenu un représentant du chef, ce qui, je tiens à le dire quand même, est relativement rare. C'est une singularité de ce village-là qui fait que l'alliance entre la chefferie, et qui est une nouvelle chefferie qui est arrivée il y a 2 ans, et Eric se passe bien, et donc on peut voir aussi que finalement ces compétitions entre aînés et cadets peuvent tendre à s'estomper avec ces jeunes urbains qui reviennent.
On a tendance à avoir l'impression que ce qui compte aujourd'hui, c'est essentiellement un exode rural massif et que les villes continuent à grossir. En réalité, est-ce qu'il y a ce chassé-croisé très équilibré ?
Alors, dans le contexte ivoirien, c'est même pas un chassé-croisé équilibré, c'est que les migrations de retour sont supérieures à celles vers les villes. C'est un phénomène qui a été décrit par un collègue qui s'appelle Chris Beauchemin dès les années 80. Et à partir de 1984, les flux migratoires des villes vers les villages sont supérieurs que ceux inverses. Après, dans d'autres pays africains, tels que le Sénégal ou le Cameroun, où on observe également des flux migratoires de retour, ils sont moins importants, mais ils sont quand même très significatifs. Donc vous voyez, il ne faut pas penser que l'Afrique connaît forcément un exode urbain, rural. Pardon.
Aujourd'hui, les villes grossissent d'abord par la pression démographique, et les villages aussi.
Oui, bien sûr.
Mais quand on parle de ces retournés, ce sont des jeunes qui sont nés au village, mais avec les années qui passent, ça sera de plus en plus souvent des jeunes qui n'ont jamais connu le village ou pas. Parce que là, est-ce qu'on est déjà à la deuxième génération qui aurait pu naître en ville de parents cultivateurs ?
Alors, on est effectivement déjà dans cette génération-là. Moi, j'ai plusieurs interlocuteurs qui en fait, ont grandi à Abidjan. Deux parents qui entretenaient un lien au village, ils y revenaient pour des cérémonies, pour les funérailles, les mariages, ce genre de choses. Et les enfants avaient ce lien au village de par ces cérémonies. Mais c'est effectivement, ils ont eu un parcours urbain. Et après ça, du fait de leur galère en ville, de leur précarité urbaine, ils ont décidé de tenter leur chance au village.
Vous avez enquêté dans deux villages, Maïdio et Zokrobouo, en pays Bété, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le sous-district de Gagnoa. Et donc, je le disais, une ville qui est connue à l'extérieur de la Côte d'Ivoire comme étant le fief de Laurent Gbagbo. Est-ce que ça donne une spécificité au parcours des jeunes ?
Pour certains, oui, parce que dans mon panel d'interlocuteurs, ils sont nombreux à avoir été des militants de l'ancien président Gbagbo. Et pour certains, ils sont revenus justement après la crise électorale de 2010-2011, qui s'est soldée donc par l'arrestation du président Gbagbo. Certains ont eu peur des représailles justement envers les militants en ville et donc ont quitté la ville à cause de ça. Donc oui, il y a cet impact-là. Mais je pense que par-delà ça, en fait, cette région est très concernée, surtout parce que c'est l'un des plus gros poumons vert de la Côte d'Ivoire, cette zone forestière où il y a de très nombreuses plantations de café, cacao. Voilà.
Alors justement, revenons à ces fameux conflits fonciers, conflits familiaux, conflits communautaires. Francis Akindes, quelle est la réalité de l'accès à la terre pour les jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire ?
Alors Emmanuel, vous parlez de jeunes. Alors vous voyez bien que partout où on parle de jeunes, on évoque la question de la jeunesse sans poser problème, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Cette jeunesse, on dit ne plus la comprendre. Et une partie de cette jeunesse est même par endroit et souvent après les conflits armés qualifiée de jeune à risque. Mais en fait, ce qui est jeune, qui est jeune et qui ne l'est pas ? Alors la jeunesse devient une catégorie un peu fourre-tout, un concept valise dont les contours sont très difficiles à définir. Vous voyez bien le cas d'Eric. Il apparaît de plus en plus difficile d'établir des seuils d'entrée dans cette catégorie et de sortie de cette catégorie. Puisque pour parler de la jeunesse, la biologie n'est désormais plus d'aucun secours. Le concept de jeune ne rime plus avec une tranche d'âge. Et est-on jeune entre 15 et 18 ans ou sort-on de la jeunesse de 35 et 40 ans ? Vous voyez, Eric, lui, il en a 43. Mais le problème, c'est que quand vous passez d'un pays à un autre, vous avez cette catégorie qui s'est construite aujourd'hui, qui n'est plus une catégorie sociologique, mais qui est plutôt une catégorie politique, qui rencontre les mêmes problèmes partout. On lui promet l'avenir, mais son présent reste incertain.
Son présent, c'est surtout d'attendre d'hériter de terres. Finalement, est-ce qu'on n'est pas jeune en zone rurale quand on attend des terres ?
Eh bien, justement, vous voyez, là, il y a une relation triangulaire très conflictuelle entre aînés, cadets et halogènes et halochtones. Vous voyez, les aînés ont, dans cette zone du centre et du sud-ouest, la Côte d'Ivoire, on s'entend, un intérêt à céder les terres à des personnes qui sont capables de leur apporter, par exemple, de les payer ou de leur apporter quelque chose à la fin du mois ou après chaque campagne. Et quand les jeunes retournent et souhaitent accéder à la terre, ils se trouvent confrontés à ce dont Eric parlait tout à l'heure. Du coup, conflit entre aînés et cadets, avec l'allogène ou l'allochtone au milieu de ce conflit. Donc conflit entre aînés et cadets de la même famille, parce que les conflits sont intra-familiaux et sont intergénérationnels. Donc on est autour du conflit foncier face à des problèmes intergénérationnels très graves en milieu rural, qui amènent justement ces jeunes de plus en plus à s'organiser pour remettre en question les cadres normatifs qui régulent justement le monde rural voilà, et coutumier. Et c'est cette problématique sociologique qui est d'actualité aujourd'hui.
Et Léo Montaz, Éric Joël nous disait mon père, enfin la terre, mes oncles ont vendu la terre à un étranger. Comment expliquer que les anciens vendent parfois ces parcelles? Est-ce que c'est pour des besoins de cash ou il y a un problème plus profond de confiance dans les jeunes retournés?
C'est un peu les deux. Hein. C'est-à-dire que, en fait, il faut voir que les aînés autochtones ont un avantage certain à plutôt contractualiser des relations avec les étrangers parce qu'ils en tirent une redevance. D'ailleurs, quand on parle de vente, c'est pas forcément une vente formelle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas forcément d'une vente avec un titre de propriété derrière. Parfois, ce sont des arrangements. Et donc, il va y avoir peut-être une petite somme d'argent versée initialement lors de la transaction. Mais derrière ça, pour le reste de sa vie, eh bien, l'étranger restera dépendant de ce qu'on appelle un tuteur autochtone. Et il devra, par exemple, l'aider à rénover sa maison, il devra lui donner un peu d'argent lorsqu'il y a des funérailles. Donc, toute cette relation clientéliste que, d'ailleurs, Francis avait désignée dans un texte de grand frérisme. Donc, cette relation-là, justement, elle fait que les aînés privilégient plutôt de la contractualisation avec des étrangers qu'avec leurs propres enfants, parce qu'ils ne tirent aucun bénéfice, en fait, de donner la terre aux enfants. Et souvent le discours qu'ils vont avoir pour légitimer le fait qu'ils ne donnent pas cette terre à leurs descendants, ça va être de dire que ces jeunes de retour au village n'ont pas les compétences techniques d'abord pour assumer l'entretien d'une parcelle, mais parfois aussi ils vont dire que ces jeunes sont fougueux, querelleurs, etc. et que donc ils n'auraient pas la bonne motivation si on veut pour ça. Donc vous voyez, on a vraiment un peu ces deux, c'est à la fois des raisons financières et à la fois des raisons morales.
Oui. Et c'est une manière de maintenir ces jeunes sous sa coupe, Francis Akindes, quand on est un ancien, un oncle, un père.
Parce que c'est même les aînés qui construisent tout le discours qui consiste à dire ben, nos jeunes sont paresseux, ils ne veulent rien faire. En fait, ce discours de jeunes paresseux cache en fait des enjeux financiers qu'explique Léo lorsqu'il parle de logique d'intérêt entre les aînés et puis les allogènes et allochtones qui arrivent. Vous voyez, donc du coup, ça creuse les tensions, ça accroît les tensions entre les aînés et les cadets dans ces zones.
Juste une précision, Léo Montaz, vous parliez de, vous nous disiez qu'il y a rarement des titres de propriété. Ça veut dire que la majorité des terres en zone rurale sur le continent africain, quel est le droit qui s'applique si ce n'est pas un titre de propriété?
Alors, je ne m'avancerai pas sur le continent africain, parce que je ne suis pas assez expert, mais sur la Côte d'Ivoire, en fait, c'est un droit coutumier
qui s'applique. En tout cas, en Afrique de l'Ouest.
Et voilà, c'est assez général en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un droit coutumier. En fait, il y a eu des réformes foncières, hein, mais qui n'ont jamais été appliquées, qui cherchaient à copier le droit français avec des titres formels de propriété, un cadastre. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je n'ai plus le chiffre exact, mais je sais qu'on est à plus de 90% des terres en milieu rural sur lesquelles il n'y a pas de titre de propriété individuelle. Donc, c'est quand même, enfin, c'est plus que considérable. Et donc, en fait, toute la gestion foncière se déroule en interne dans les villages, en général donc soit par les conseils de famille, soit par les chefferies villageoises, et souvent avec le soutien de personnalités extérieures telles que les sous-préfets.
Donc à défaut d'un titre de propriété, on a un droit d'usage ?
Oui, on peut appeler ça effectivement un droit d'usage, c'est ça.
Alors vous continuez bien sûr de nous appeler. Si vous êtes jeune ou ancien jeune, retournez au village. Vous nous parlez de vos situations, de vos difficultés, de vos réussites aussi. Hein. Qu'est-ce que vous apportez aussi à la communauté ? On vous donne la parole. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Et on se retrouve avec nos invités Léo Montaz, Francis Akindes, juste après ce blues du désert, extrait du dernier album de Songo Blues. Yer fara, yer toro, yer la jaba, yer fara.
Kandirga, Jimmy Masataraya.
RFI, 7 milliards de voisins, on est en direct et nous donnons la parole à ces jeunes retournés au village qui quittent la ville après plusieurs années, souvent après des années d'études, de diplômes. On en discute avec vous, Léo Montaz, ethnologue. Vous avez publié « Retour au village, jeunesse et pouvoir en Côte d'Ivoire » aux éditions Cartala. Vous avez enquêté dans deux villages, Maïdio et Zokrobouo, dans la région de Gagnoa, donc dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Vous me disiez d'ailleurs pendant la chanson que Maïdio, on a entendu d'ailleurs Eric Joël Baléga, qui est le président des jeunes du village de Maïdio, c'est plus vraiment totalement un village.
Non, alors il se trouve que Maïdio, depuis un peu plus d'un an maintenant, en fait, est devenu la porte d'entrée, on peut dire, de Gagnoa, parce qu'il y a un corridor militaire qui était installé dans la ville depuis les crises. Et ce corridor, justement, a été déplacé dans le village de Maïdio. Donc en fait, aujourd'hui, effectivement, c'est en train de devenir presque un quartier périphérique de Gagnoa.
Ouais, et les villages, pour ceux qui nous écouteraient à l'extérieur du continent africain et qui ne connaîtraient pas le continent africain, pas partout, mais bon nombre de villages avec la croissance démographique, avec l'arrivée de l'électricité, etc., ne ressemblent pas tout à fait à ce qu'on pourrait avoir dans notre imagination.
Ah non, loin de là, hein. C'est un village comme Maïdio, c'est un village qui est électrifié, avec beaucoup de maisons en béton en dur, avec quand même il y a des bars-restaurants, les fameux maquis africains. Voilà, c'est quand même un village
bien développé. Énormément de circulation sur la route, on l'entendait, parce qu'Éric Joël témoignait avec beaucoup de bruit autour de lui. Francis Akindas est également en ligne avec nous, sociologue ivoirien à l'université de Bouaké, directeur des programmes de la chaire UNESCO de bioéthique. Francis, vous intervenez bien sûr quand vous le souhaitez et vous continuez de nous appeler, les voisins et les voisines, car bien sûr, beaucoup de questions autour de ce retour au village en zone rurale. 33-7, 64-45, 51-41. Il faut bien repréciser que les jeunes ont longtemps quitté le village, les zones rurales pour la ville, parce que c'est l'accès à l'éducation, la capitale, la ville, c'est l'accès à l'électricité, c'est l'accès aux soins de santé. Et ça, ça reste quand même encore assez prégnant. Je voudrais qu'on écoute le point de vue d'une voisine, Michèle à Douala, qui travaille sur les questions de jeunes, qui nous a laissé un message sur notre WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
Dans mon pays, il y a quelques années, on assistait à l'exode rural. C'était des jeunes qui partaient de leur village. La scolarité n'allait pas très loin. Ceux qui allaient le plus loin possible arrivaient au niveau baccalauréat. Et ils étaient frustrés de rentrer faire les travaux champêtres avec les parents. Et finalement, les jeunes tournaient en rond. Ils tombaient dans les contre-valeurs, l'alcool, la drogue, ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que petit à petit, les jeunes ont commencé à aller en ville à la recherche de débouchés. Ils sont arrivés, ils ont trouvé de petits métiers qu'ils ont commencé à faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont été éblouis, je vais dire, par les lumières des grandes villes. Ils ont commencé à gagner beaucoup d'argent par rapport à ce qu'ils gagnaient lorsqu'ils étaient au village. Mais n'ayant pas forcément une éducation financière, ils se sont mis à tout dépenser, encore que le niveau de vie était assez élevé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils gagnaient de l'argent et puis le perdaient, un peu comme s'ils avaient une main trouée. Donc, ils ont commencé à rentrer au village. Mais en rentrant au village, ils avaient eu déjà une ouverture d'esprit. Donc, ils avaient maintenant l'état d'esprit de s'organiser. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'ils arrivent au village maintenant, ils font des plantations et ils créent des emplois parce qu'ils prennent leurs jeunes frères pour faire des plantations et ils reviennent le vendre en ville. Certains ont commencé à faire carrément le moto-taxi entre la ville et le village. D'autres se sont mis en association. Ils ont créé des coopératives pour créer, par exemple, des adductions d'eau, pour faire électrifier le village. Et petit à petit, il y a maintenant ce lien qui existe entre la ville et le village. Et voilà comment l'exode urbain maintenant se fait, mais avec beaucoup plus de chances de succès et le village revit.
Francis Akindes, est-ce que vous êtes d'accord avec ce témoignage de Michel qui est au Cameroun, hein, un pays très différent de la Côte d'Ivoire, mais elle décrit finalement une vision très positive de ces retournées au village?
Il peut avoir une vision positive de retour au village si les jeunes ont une formation et si on crée des opportunités en milieu rural pour qu'ils convertissent ces formations en possibilité de transformation du milieu dans lequel ils décident d'aller revivre s'ils étaient repartis du village. Le cas qui est décrit au Cameroun, c'est les jeunes qui se saisissent des interstices d'opportunité, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux, par exemple, en créant des infrastructures, en apportant du crédit, par exemple, pour des activités transformatrices du milieu rural. Mais ce n'est pas ce qui est le cas. Le plus souvent, c'est parce qu'on observe. Donc, du coup, lorsque les jeunes doivent retourner à la terre et travailler la terre avec la dama, bah, ils réussissent ou ils transforment leur potentiel, leur potentialité en... ils trouvent dans la violence de quoi renégocier leurs relations avec les aînés qui ne leur donnent pas cette possibilité de continuer à exister. Donc, cette rupture des liens entre les générations se fait remarquer tout de suite dans les contextes variés.
Léo Montaz, est-ce que la violence politique, par exemple, qu'on a observée en zone rurale au moment de l'élection présidentielle d'Alassane Ouattara, est-ce qu'elle est reliée à une frustration de débouchés économiques en zone rurale pour les jeunes ?
Oui, alors elle est reliée en partie à ça, mais je pense qu'il faut quand même insister aussi sur un phénomène inverse, le fait que justement, et c'est ce que décrivait Michel au Cameroun, qu'en fait les jeunes s'organisent quand même de plus en plus et sont porteurs très fortement du développement. Et ça c'est quand même un phénomène qui est relativement récent, en tout cas je l'ai observé moi ces 5-6 dernières années, de plus en plus de jeunes qui, bah, comme au Cameroun, s'organisent en association, et voire même créent des ponts en fait entre par exemple ce qu'on appelle les mutuelles en Côte d'Ivoire, donc ces associations de cadres qui vivent en ville et qui en fait vont financer ces jeunes au village et donc créer des dynamiques comme ça.
Donc des jeunes apporteurs de solutions finalement.
Oui c'est ça, et qui finalement sortent justement de ces trajectoires un peu violentes pour entrer plutôt vraiment dans des trajectoires entrepreneuriales de développement. Donc il y a quand même les deux phénomènes et je pense que cette nouvelle trajectoire prend aussi de plus en plus le dessus.
Les jeunes dans votre livre parlent de moderniser le village. Comment c'est perçu par les anciens, ça, ce type de discours ?
Ou alors, c'est source de tension, hein, bien sûr. Pour l'anecdote, je me rappelle quelqu'un, lorsqu'ils ont voulu créer le premier maquis du village, ça a été le branle-bas de combat de la chefferie pour empêcher l'ouverture de ce maquis, parce que ça allait faire du bruit, de la musique, tout ça. Donc, on voit bien qu'il y a des tensions, mais finalement, les aînés, aujourd'hui, ils vont dans ce maquis.
Justement, nous sommes en ligne avec Éloge Midi, que nous avons contacté grâce à vous, Léo Montaz, qui est propriétaire d'un commerce de téléphonie mobile dans le village de Zokrobouo que vous avez étudié dans la région de Gagnoa. Bonjour Éloge Midi.
Oui, bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous en direct. Alors vous avez 32 ans, vous êtes revenu au village à l'âge de 22 ans et vous êtes maintenant propriétaire d'un commerce de téléphonie mobile. Vous avez quitté Abidjan, vous à l'époque, pour des raisons politiques ?
Bien sûr. Vraiment, il y avait trop de guerre, mon père n'avait rien, vraiment, on n'arrivait plus à manger, là. Mm-hmm. C'était dur. Alors, vraiment, il fallait venir au village pour creuser du manioc, tout ça. Mais... Et puis, j'ai remarqué quelque chose, que dans le village, le courant est arrivé, la communication, ça passe bien, alors qu'on n'avait pas de transition, de transfert, de communication. Alors
vous parlez de difficultés pour manger à Abidjan, mais vous avez aussi parlé des guerres, des conflits. Est-ce qu'à l'époque, vous craignez les représailles contre les militants pro-Bagbo à Abidjan ?
Ok, bon, vraiment, Abidjan, en ce moment-là, il n'y avait pas de pro-Bagbo, il n'y avait pas de temps. C'était au temps où, en ce moment, Guy Robert, tout ça, Guy Robert, il y avait seulement des tensions. Nous, on partait à l'école tout près. L'école même a été cassée. Mon père aussi, vraiment, qui faisait ses boulots à la rivière comme plombier, n'arrivait même plus à nous donner à manger. C'était dur.
Mais dur même. Ouais. Et là, du coup, de ton retour au village en 2011, c'était aussi lié à la crise électorale, non?
C'est en ce moment que je suis arrivé au village, bien sûr. J'ai marché d'Abidjan jusqu'à Saint-Fra pour entrer à Gagnon.
Alors, Éloge Mehdi, parlons du présent. À la différence d'Éric Joël Baléga, vous avez hérité d'une parcelle de cacao de votre père et de votre oncle. Vous avez patienté plusieurs années avant d'avoir cette parcelle.
J'ai fait 5 ans d'abord dans le village. Parce que le champ était géré par le grand frère de mon grand-père. Mmh. Alors, c'est celui-là qui est tué.
Pourquoi aujourd'hui vous ne cultivez pas cette parcelle alors que vous êtes revenu au village et que vous avez cette parcelle?
Cette parcelle est déjà cultivée par du cacao.
Oui, d'accord, mais par qui? C'est pas le cacao qui se cultive tout seul.
Le cacao a été déjà cultivé par mon grand-père.
Mmh.
Voilà,
mais
c'est un déjà.
Aujourd'hui, pourquoi vous n'êtes pas cultivateur vous-même?
Bon, moi, je ne suis pas cultivateur parce que la machette, je ne sais pas la manipuler.
Voilà. Vous ne savez pas manipuler la machette, c'est ça?
Non, je ne sais pas la manipuler parce que je n'ai jamais essayé. Mmh.
Vous trouvez clairement, Éloge Mehdi, vous trouvez que c'est un travail trop dur, physiquement?
La machette, vraiment, c'est un travail pénible, très pénible.
Alors, avec les bénéfices des terres cultivées par une autre personne que vous, vous êtes lancé dans un commerce de téléphonie mobile en 2016. Aujourd'hui, comment ça marche? Vous êtes bénéficiaire, ça marche bien?
Aujourd'hui, je suis partenaire officiel de MTN Côte d'Ivoire. J'ai ma propre maison de communication qui est Midi Communication.
Mm-hmm.
J'ai mon compte qui est là. J'ai ma famille qui va bien. Vraiment, ça va. J'ai encore plus 10 depuis l'année où je suis quitté Abidjan jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis plus le même en tout cas.
Ouais, c'est ça. Vous êtes un homme qui a réussi finalement.
Vraiment, j'ai pas encore réussi, mais je suis presque arrivé. Mais ça va.
Et votre épouse, est-ce que c'est une retournée, elle aussi?
Mon épouse, elle n'est pas une retournée. Elle a fait son enfance au village avec son père. Et on s'est croisés à Abidjan. Lorsqu'elle est partie pour la première fois à Abidjan, en ce moment, moi, je retournais ça. En ce moment, on s'est croisés. On n'a pas eu le temps de faire. Mais elle et moi, nous sommes côte à côte. Son village est près de chez moi. Alors, quand elle est revenue au village, alors on s'est croisés et puis ça marche. Ça
ouais. Vous auriez pu imaginer épouser une ancienne étudiante, une ancienne fille de la ville qui vous aurait suivi au village?
Mais actuellement, le village, il est tellement enclavé qu'à partir de 18h déjà, tout le monde est couché. Qui va accepter ce qui...
À partir de 18h, tout le monde est couché. Bon, ça, c'est un message que les auditeurs vont retenir. Merci beaucoup, Éloge Mehdi, en tout cas, d'avoir été en ligne, en direct, avec nous, du village de Zokrobouo, dans la région de Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, vous continuez de nous appeler au 33 7 64 45 51.
Sept milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'y refais le monde avec 7 milliards de voisins.
On accueille Gogbe qui est ivoirien mais qui n'est pas en Côte d'Ivoire. Bonjour Gogbe.
Bonjour Emmanuel.
Alors dans quelle situation êtes-vous vous? J'ai cru comprendre que vous étiez un futur retourné.
Oui, effectivement, je suis un retourné au village.
Vous avez une licence de lettres modernes, mais vous n'êtes pas revenu travailler encore la terre. Vous êtes diplômé de l'université de Boaké, vous habitez à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Vous avez hérité de 5 hectares de terre qui sont cultivées en anacarde, donc en noix de cajou. Vous êtes propriétaire de ces parcelles? Comment ça se passe?
Bon, il faut dire qu'en 2010, quand il y a eu les événements sociopolitiques, voilà, et l'université était en temps de latence pendant 2 ans, et ça fait que, bon, on ne partait pas à l'école, donc je me suis donné à certaines activités. Et ce qui a fait que, bon, je ne suis plus retenu à l'école. Donc, à l'université, je veux dire, Donc, je me suis donné à certaines activités et c'est en 2017 que j'ai fait le retour à la terre.
Mais aujourd'hui, pourquoi vous ne cultivez pas? Pourquoi vous n'êtes pas sur place?
Bon, il faut dire que ce qu'ils disaient mes prédécesseurs là, ce n'est pas facile. Le retour à la terre n'est pas facile parce que lorsque on fait les études universitaires et qu'on revient à la terre, au village, je pense que les parents ne sont pas trop favorables à ce retour-là. Parce que vous êtes mal vu, vous êtes mal accueilli, donc j'ai dû forcer les choses, et puis bon.
Est-ce que vous comptez revenir pour de bon en Côte d'Ivoire, cultiver vos terres, ou en tout cas gérer la culture de vos terres?
Lorsque vous venez les mains vides au village, vous n'êtes pas vraiment bien accueilli.
Donc vous attendez d'avoir gagné un peu d'argent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, si j'ai bien compris.
Voilà, parce qu'il faudrait que je me construise un toit.
Oui. Alors, vous avez des parcelles, mais vous hésitez encore. Merci, Gogbé, de nous avoir appelé. Vous êtes nombreux à souhaiter vous exprimer. Sorel est dans l'ouest du Cameroun. Bonjour, Sorel. Vous avez 36 ans.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Alors, c'est que je voulais apporter comme... déjà, c'est un témoignage. En Afrique en général et au Cameroun en particulier, nous sommes un peuple de chasseurs. Et quand on va à la chasse, il faut ramener du gibier. Et le gibier, ce n'est pas forcément de la matière. Et on peut ramener soit du savoir ou de l'argent au village. Donc, lorsqu'on rentre au village, il faut apporter de la valeur ajoutée. Moi, je suis rentré de France en 2013 et j'ai fondé une coopérative agroforestière et relancé la filière du café de spécialité dans notre village. Donc, l'effet...
Où êtes-vous exactement au Cameroun?
À l'ouest du Cameroun, sur le plateau Bamoun, à Banco précisément. Ouais.
Et c'est grâce à cette valeur ajoutée qu'on peut être accepté par la communauté, par les anciens?
Tout à fait. C'est-à-dire, quand je suis arrivé au village, j'ai proposé aux villageois qu'on peut relancer la filière du café et faire du café de qualité. Donc, et gagner 4 à 5 fois plus d'argent au kilogramme de café que ce qu'il gagnait en faisant du café de la façon dont il faisait. Donc, c'est la valeur ajoutée là qu'on apporte au village. Je ne suis pas rentré au village avec de l'argent. Je ne suis pas rentré au village avec des voitures, mais je suis rentré au village avec ce que je suis allé en ville apprendre.
Comment vous avez acquis cette expertise agricole?
J'ai découvert le café de spécialité à Paris. Voilà.
C'est facile de convaincre qu'il faut changer de méthode. Comment on conduit le changement en étant finalement un étranger sur ses propres terres?
C'est en composant avec le village, pas en voulant révolutionner le village. C'est-à-dire, ce que j'ai proposé et ce qui a marché, c'est d'intégrer les habitudes traditionnelles avec les exigences qualité qu'exigent les nouveaux consommateurs de la ville. Voilà. Donc, c'est créer un pont entre le village et la ville.
Et les résultats sont là, ils sont arrivés vite pour que on puisse vous accepter.
Nous, on a fondé la coopérative. En fait, lorsqu'on fonde la coopérative, il faut greffer à la fois des assistances, à la fois une assistante sociale. On a créé une bourse du livre pour aider les enfants des paysans à avoir accès au matériel scolaire à moindre frais, en mutualisant les moyens des paysans du village. Lorsqu'on greffe des actions sociales à un projet socio-économique, il y a des chances que les gens s'inscrivent dans la durée. C'est ce que nous, on a fait.
Oui, merci Sorel. Oui, allez-y, je vous en prie.
Voilà, et en 2017, nous avons exporté nos premiers lots de café et aujourd'hui, on est autosuffisant au village, grâce à ce retour-là
Ouais.
Et je ne suis pas prêt d'aller m'installer en ville. Quoi.
Voilà. Oui, oui, ben ça, on a bien compris. Merci Sorel, bravo à vous. C'est extrêmement intéressant votre témoignage parce qu'il y a tout le mode d'emploi finalement. Vous montrez bien qu'il faut évidemment qu'il y ait une réussite financière qui arrive assez vite pour le village, hein, qu'il faut qu'il y ait des résultats en monnaie sonnante et trébuchante, mais il faut aussi que le village trouve des avantages sociaux hein, dans le changement. Léo Montaz, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, pour que les jeunes deviennent une opportunité pour les villes, est-ce que ces conditions sont essentielles ?
Oui, oui, effectivement. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on avait dans le parcours des loges, hein, qui a lancé ce commerce de téléphonie qui n'existait pas encore dans cette zone. Et c'est ce qui lui a permis de s'implanter et de vivre aujourd'hui très correctement au village, même s'il dit que la réussite est encore à la porte, mais il n'en est vraiment plus très loin. Et je pense que c'est pareil, là, dans le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est vraiment super important, ces dynamiques, effectivement, d'entrepreneuriat, de développement des villages.
Je voudrais, avant qu'on se quitte, quand même, qu'on donne la parole à une voisine, parce qu'on n'a pas entendu de femmes dans cette émission. Ce sont toujours des hommes qui sont les retournés. D'ailleurs, l'un d'entre eux a dit qu'il avait pris une épouse, mais qu'il avait pris quand même soin de prendre une épouse qui n'avait pas trop côtoyé la ville. Jocelyne nous appelle de Libreville. Bonjour Jocelyne.
Moi, je vous ai appelé pour vous dire que je vous appelle de la région de Libreville, au Gabon. Et que je suis héritière d'un hectare de terrain qui se trouve, d'un hectare de terre qui se trouve dans le nord du Gabon, oui. Mais que le réseau routier n'étant pas du tout fait, en fait, pour ne même pas dire n'est pas fiable, je ne peux pas aller utiliser cette terre-là alors que j'aimerais bien partir de la ville pour pouvoir aller à la campagne et faire de l'agriculture. Et comme disait le précédent interlocuteur, pour pouvoir faire un pont entre le village et la ville et pouvoir permettre à ce que les gens de la ville puissent manger de l'agriculture bio, en fait.
Mais Jocelyne, vous avez vécu toute votre vie à Libreville, pratiquement.
J'ai vécu à Libreville, j'ai vécu en France.
Ouais. Très honnêtement, en dehors du réseau routier, est-ce que vous vous imaginez retourner au village ?
Oui.
Bon, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Jocelyne, de nous avoir appelé. Merci aussi à vous, Léo Montaz, ethnologue. Merci. Retour au village, jeunesse et pouvoir en Côte d'Ivoire aux éditions Cartala. Merci à vous aussi, au professeur Francis Akindes, sociologue ivoirien à l'université de Boaké. Très belle journée à vous. Et puis merci aussi, bien sûr, à Éric-Joël Baléga, le président des jeunes du village de Maïdio, Éloge Midi, le commerçant à Zokrobouo. Et merci à vous tous pour vos témoignages, vos très nombreux appels. Vous le savez, c'est vous qui faites l'émission.
Tout le monde est voisin.
Le monde est un village planétaire.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose, quelque part, qui nous rapproche.
Eh ben tiens, il y a quand même une émission qui pense à tous les mondes.
Il y a tellement de richesses ailleurs.
7 milliards de voisins, entre nous là, entre les voisins.
7 milliards de voisins,
ouais.
C'est maintenant.
Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion, on parlera de ces peurs qui paralysent la relation amoureuse. C'est la peur d'être quitté, d'être trompé, le souvenir d'une rupture douloureuse ou encore la peur de rester seul. Autant de freins à l'amour qui empêchent parfois de s'engager ou de vivre de nouvelles histoires sentimentales. Alors comment prendre conscience de ces blocages personnels ? Comment s'en libérer ? À demain, les voisins et les voisines.